Dossier 1. Épreuve orale collective. Lisez les questions, puis cochez la bonne réponse.
Notre culture est bien sûr imprégnée de mythologie gréco-latine, à tel point que notre langage courant est constellé de références à celle-ci. Nous pourrions ainsi dire que nous avons un président de la République jupitérien, dirigeant la France depuis le palais de l'Élysée, confronté à des travaux herculéens, sous l'œil d'une opposition cherchant dans le moindre de ses laïus son talon d'Achille, tandis que ses propres partisans risquent de se déchirer tels des Atrides, sous l'œil de médias féroces comme des harpies. Mais comprenons-nous vraiment l'origine de ces mots, les dieux, les mythes qui les ont forgés? Et ces mythes portent-ils encore pour nous une vision du monde, de l'homme et de la vie? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons examiner en compagnie de Pierre Brunel, professeur émérite de littérature comparée à la Sorbonne, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et qui, après de nombreux ouvrages savants consacrés à la notion de mythe, vient de publier aux éditions First un ouvrage de vulgarisation titré « Les grands mythes pour les nuls ». Monsieur, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, peut-être faut-il d'ailleurs définir cette notion de mythe, sans quoi nous risquons d'être dans le brouillard d'emblée.
Merci beaucoup, monsieur. Alors, ma réponse à cette première question sera la suivante. Il ne faut pas imaginer qu'un terme comme celui-ci ait un sens unique dans la langue et dans la littérature grecque. Et le mieux est de se référer à Platon et derrière lui à Socrate. Le mythos, c'est une parole sacrée, alors que le logos, c'est plutôt une parole qui naît de la raison. De l'homme. D'où cette distinction que nous faisons d'ailleurs nous-mêmes entre la mythologie qui passe pour être un fruit de l'imagination, nous pourrons peut-être discuter de ce point tout à l'heure, et le discours, traduction du mot logos en grec.
Alors vous avez prononcé le terme de parole sacrée, ça signifie donc que à l'origine, ces fameux mythes que nous voyons aujourd'hui comme des histoires ou des catégories mentales formaient une véritable religion.
Alors le mot s'est dévalué en quelque sorte à l'époque contemporaine en particulier, c'était le sujet traité par Roland Barthes dans ses célèbres livres, mais à l'origine le mythos c'était bien une parole sacrée, donc qui concernait les dieux, qui concernait la création du monde et la création de l'homme, qui concernait aussi les héros sur lesquels nous reviendrons peut-être. Et cette mythologie-là, non seulement elle a nourri la religion proprement dite des Grecs et des Latins, mais elle a nourri aussi leur littérature. Et c'est par la littérature, le plus souvent d'ailleurs, que nous connaissons les personnages de la mythologie.
Oui, parce que ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que la religion des anciens Grecs et des anciens Romains n'est pas une religion du livre, mais c'est une religion littéraire.
Absolument, absolument, et qui fait une grande place, pour nous, à nos yeux, fait une grande place à l'imagination de l'homme.
Alors, vous personnellement, de quand date votre rencontre avec le mythe? On voit que tout au fil de votre carrière, le mythe a une place centrale. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le mythe? Ça va aussi nous aider à comprendre sa force d'attraction.
Alors c'est très ancien chez moi, car j'ai une formation gréco-latine en quelque sorte. Toutes mes études ont été des études de lettres classiques. Très tôt, donc en classe même, j'avais à me pencher sur ces figures, un peu comme les prétendus nuls auxquels s'adresse cet ouvrage. Et puis par la suite, j'ai été très frappé par la présence des mythes, et en particulier des mythes gréco-latins, dans les littératures dites modernes jusqu'à la littérature d'aujourd'hui. Il est très frappant que même un écrivain d'aujourd'hui peut faire place à telle figure mythologique, que ce soit une figure très connue ou que ce soit une figure moins connue. Dans n'importe quel livre d'aujourd'hui, il y a une place pour cela.
Alors lorsqu'on se penche sur cette culture et cette mythologie gréco-latine, on a tendance, nous, dans l'Occident, dans l'Europe contemporaine, à y voir l'origine de notre civilisation. Mais eux, dans cette religion, évidemment, ils réfléchissent eux aussi à l'origine et ils la placent bien avant, et ça fait partie du rôle des religions, je pense, s'interroger sur l'origine non seulement de leur patrie ou de leur culture, mais même du monde.
Oui.
Comment l'envisagent-ils?
Alors c'est une chose assez curieuse et tout à fait intéressante, à mon avis. Je pense à la relation qui a pu exister entre l'Orient et la Grèce, et par la suite Rome. Vous connaissez l'histoire, le fameux mythe de Zeus qui se transforme en taureau pour enlever sur une place phénicienne, donc en Asie mineure, la petite Europe. Hein. C'est un mythe grec qui a ensuite essaimé chez les Latins et dont nous récupérons quelque chose aujourd'hui jusqu'au nom de notre continent Europe. Et pourtant, l'origine était bel et bien l'Orient. Se trouvent mêlées dans la mythologie grecque des figures orientales. Alors, ou bien elles sont reprises comme telles, ou bien elles sont adaptées, et tout simplement parce qu'il y avait un passage d'un côté de la mer Méditerranée à l'autre. Hein. Au centre de tout cela, Troie, hein, la guerre de Troie, qui est mythique en quelque sorte, hein, et qui fait place à toutes ces figures de la mythologie, que ce soit les dieux ou que ce soit les héros.
Oui, ce qui est frappant à la lecture de la première partie de votre ouvrage, qui est titré « Le mystère des origines, le monde et les dieux », c'est qu'il y a un mélange très curieux pour nous, on y est peu habitué maintenant qu'on a adopté des critères de technicité historique différents. On mélange la mythologie, la cosmogonie et la mythologie sans aucune réticence.
C'est tout à fait frappant. Je vais prendre un exemple très net à cet égard. Chaos. Hein. Nous parlons du chaos. Hein. Pour les Grecs, c'était chaos. C'était une sorte d'être, de personnage. Hein. Il y avait une origine du monde qui n'était pas le chaos parce que c'était complètement dispersé, mais qui était une figure mythologique.
C'est ça, mais qui n'est pas un dieu. Hein,
voilà, qui n'est pas un dieu.
Précède les dieux.
Voilà. Et alors, j'ai beaucoup tenu à cela dans ce livre, à opérer la distinction entre la partie la plus ancienne de la mythologie grecque et la partie que nous connaissons mieux, que nous étudions en classe, la partie véritablement classique, c'est-à-dire celle qui met en valeur les Olympiens, Zeus et ses compagnons et compagnes.
Qui viennent, si j'ai bien compris, justement, mettre fin à cette ère de chaos.
Alors, qui vient mettre fin à cette... Oh oui, plus qu'à cette ère de chaos, hein, parce que le chaos, c'est quand même ce qu'il y a de plus ancien, suit une première génération de dieux, en quelque sorte, je crois que j'ai utilisé ce terme de génération, qui va être suivie par une seconde génération de dieux, qui sera la génération olympienne, celle que nous connaissons, nous, le mieux, mais très bizarrement, il y a dans la première génération des naissances de figures olympiennes. Je pense ici à Vénus, qui naît de la semence du dieu Uranos, le ciel, hein, que son fils Cronos a châtré. Hein, le sperme tombe dans la mer et il en naît Aphrodite, pour les Grecs, Vénus pour les Latins.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une interpénétration extrêmement forte entre les dieux d'un côté et des entités aux contours beaucoup plus flous, telles que la nature, le ciel, le chaos, le monde du dessous, je ne sais pas s'il faut l'appeler
comme
ça.
C'est à peu près cela. Moyennant quoi, c'est difficile pour nous, parce que nous avons du mal à y voir des figures. Hein. Uranos, pour nous, c'est le ciel que nous voyons, ou bien leur au sens religieux dans la religion chrétienne. Mais pour eux, cet Uranos, c'était véritablement une figure masculine, une figure à beaucoup d'égards douteuse, ce qui explique le châtiment que son fils a été chargé de lui infliger à la demande de sa mère, qui ne le supportait pas.
Alors, ce qui est également un petit peu désarçonnant pour ceux qui ont été élevés dans une culture comme de façon dominante monothéiste, c'est cette profusion incroyable et une histoire religieuse ou mythologique faite non pas de dogmes, d'affirmations ou de limites claires, mais plutôt d'une profusion biologique en constante évolution, traversée de tensions, de conflits, tant et si bien qu'on a un peu l'impression... Je vous provoque. On pourrait tirer ces histoires dans un sens ou dans l'autre. Vous êtes critique littéraire. Et que donc face à cette matière, on pourrait un petit peu en faire ce dont on a envie, la modeler à sa guise. Est-ce que je me trompe ou est-ce que véritablement on peut en déduire un sens certain?
Alors comme vous le dites, c'est pour nous quelque chose de sidérant. Le multiple, qui est du surmultiple en matière de mythologie grecque aussi bien que de mythologie latine, on s'y perd, on a toujours l'impression qu'on pourrait encore en ajouter. Hein.
C'est ce qu'ils font d'ailleurs.
Oui, ce sont des centaines, ce sont des milliers. Inévitablement, une telle multiplicité suscitait des ruptures, des conflits entre eux. Hein. Si nous prenons l'exemple des dieux de l'Olympe, par exemple, hein, de Zeus et de ses proches, ceux qu'on appelle les 12 Olympiens, même quand quelquefois on va jusqu'au chiffre de 14. Hein. Il a deux frères, Zeus. Il a Hadès, le dieu des enfers, et il a Poséidon, le dieu de la mer. Hein. Et il y a, entre Poséidon et Zeus, une jalousie infinie qui, pour nous, qui connaissons tout cela beaucoup plus à travers la littérature qu'à travers la religion proprement dite, qui occupe dans les œuvres littéraires une place très très importante. À l'intérieur de l'Iliade, vous trouvez un passage où il est question de ce conflit entre Zeus et son frère Poséidon, par exemple. Ils ne soutiennent pas les mêmes combattants. Poséidon considère qu'il a été frustré, hein, que pourquoi est-ce que ça n'est pas lui qui a le pouvoir suprême, et compagnie. Ce que nous comprenons mal à l'intérieur d'une religion, qui est un tel conflit entre des figures divines. Je pense que la religion, pour nous, est quand même plus un facteur de paix qu'un facteur de guerre, hein, même si elle suscite ce qu'on appelle les guerres de religion dans l'histoire. Et pour les Grecs, non, cette multiplicité extrême appelait des conflits, appelait des guerres entre dieux, appelait des victoires et des défaites, et tout cela satisfaisait énormément leur imagination.